Mardi matin, mardi 9 avril, bienvenue, il est 8h. Emma Solzay pour le journal. Il y a un petit peu de monde avant Givor sur l'A47. 14 à 15 minutes d'attente sur l'A47, donc avant Givor. Et puis un trafic bien ralenti de Firminy jusqu'à Terre-Noire en passant par le Chambon-Feugerolles et la Ricamari. C'est en rouge sur nos cartes et vous avez 20 minutes de temps de trafic supplémentaire. La météo, nuages et averses, une bonne partie de la journée sur la Loire. On perd 10 degrés pour tout vous dire en 24 heures. 11 degrés au meilleur de la journée à Saint-Étienne, 9 degrés ce matin. Saint-Étienne, on forme des agents de sécurité pour les Jeux Olympiques.
Oui, parce qu'il va y avoir besoin de renforts. Il faudrait 60 000 agents de sécurité, selon le ministère de l'Intérieur, en plus des forces de l'ordre. Alors, depuis 5 mois, à Saint-Étienne, les formations se succèdent chez Global Pro Formation. Et les formations durent 106 heures. Et d'ici les Jeux, Aurélie Jacquan, environ 120 personnes seront formées.
Vérifier les sacs, faire des palpations, gérer un mouvement de foule, c'est ça qu'ils apprennent. Et pour gérer le stress, dès les premiers jours, Joris a été mis en situation.
Moi, j'avais le cas d'une personne qui était dans un aéroport, qui était là, qui s'agitait, qui disait qu'il voulait faire tout péter l'aéroport. Enfin, un truc assez violent et assez hard. Et on m'a dit d'essayer de gérer la personne. Ce qui n'a pas été simple, c'est de savoir comment réagir, parce qu'en fait, c'est très pointilleux. Après, le but, c'était de le mettre au sol et de le maîtriser. Je ne l'ai pas fait parce que c'était le début. Et spontanément, voilà, on n'a pas forcément ce réflexe-là. Mais bon, justement, on apprend, on est là pour ça.
De la pratique et de la théorie, un peu de droit aussi. 106 heures au total en un peu plus de 3 semaines. Un examen final. Leur formation est valable 5 ans. Redouane est formateur.
Par rapport à un agent de sécurité qui, lui, va être sur son site et il sera habitué, il va rentrer dans une méthodologie que là, sur un événement, vous n'avez pas le même public, vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes prestations, donc on les prépare à ça.
Et pour certains, c'est une reconversion. C'est le cas de Ludovic, 58 ans, très motivé par le fait de participer au jeu.
C'est un contact avec le public dans la joie. Enfin, c'est le sport, ça réunit beaucoup les peuples. On est en quelque sorte des acteurs, on participe tous à la réussite de cet événement.
Et grâce à cette formation, ils pourront travailler sur tous les gros événements, pas uniquement les JO.
Un reportage d'Aurélie Jacquan à lire aussi sur le site internet de France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Un ancien adjoint à la mairie de Saint-Étienne accuse à son tour Gaël Perdriau dans l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime.
Et selon Samy Kéfi-Jérôme, le maire de la ville était l'un des commanditaires du piège tendu contre Gilles Artigue. L'ancien adjoint l'aurait affirmé devant les juges d'instruction lors d'une audition le 6 février dernier, publiée par Mediapart hier. Gaël Perdriau nie toujours les faits, mais ça devient de plus en plus difficile à tenir, Louise Thoman.
Les témoignages qui l'accablent sont de plus en plus nombreux. Pierre Gauthiery d'abord. L'ancien directeur de cabinet de Gaël Perdriau a affirmé en décembre devant les juges que la décision, je cite, revenait au maire. Il a donné son feu vert pour cette mission. Cette mission comprenait piéger Gilles Artigue. Des aveux après plusieurs mois de mensonges, il expliquait ne plus vouloir servir de fusible. Ensuite, Samy Kéfi-Jérôme refuse lui aussi ce rôle de fusible. C'est à son tour de dire aux enquêteurs que Gaël Perdriau est bien l'un des commanditaires. Il précise dans son audition qu'il n'en a pas parlé directement avec le maire de Saint-Étienne, mais... ouvrez les guillemets là aussi, à partir du moment où Pierre Gauthiery engage la parole du maire, je ne pouvais pas imaginer que c'était sans son aval. Fermez les guillemets. Et puis troisième témoignage, l'adjoint du directeur de cabinet serait lui aussi revenu sur ses déclarations, toujours selon Mediapart, affirmant que Pierre Gauthiery n'aurait jamais fait ça sans validation et qu'il l'avait bien montré la vidéo à Gaël Perdriau. Le maire de Saint-Étienne lui maintient qu'il n'était pas au courant. Il pourra opposer sa version à celle des autres dans une semaine puisque les juges organisent des confrontations les 16 et 17 avril prochains.
Les précisions de Louise Thoman et vous pouvez lire le détail de cette affaire sur notre site francebleu.fr. C'est l'un des réalisateurs français les plus en vogue dans les années 2000 et 2010. Philippe Lioré est mis en cause par 10 actrices. Elle dénonce un comportement déplacé du réalisateur pendant notamment le casting de son film « Toutes nos envies » en 2010. Chose rare, ces comédiennes ont choisi de parler à visage découvert. Elles veulent que les pratiques changent au moment des castings où elles sont plus vulnérables. C'est une enquête de la cellule Investigation de Radio France, Géraldine Allot.
Oui, pendant ce casting, Philippe Lioret n'est pas resté derrière la caméra. Il a choisi de donner la réplique aux comédiennes et de leur faire jouer une scène intime. Nous avons pu visionner des images de ses essais et on voit le réalisateur enlacer les actrices, mettre sa bouche dans leur cou, parcourir leur corps de ses mains. Une situation qui a beaucoup gêné la comédienne Élodie Franck.
Il veut toucher plus et que ce soit plus vrai et plus vrai et plus vrai. Et tout d'un coup, j'ai décidé que ça suffisait. je suis partie.
Amandine de Wamel a obtenu l'un des rôles principaux dans Toutes nos envies. Elle dénonce aussi l'attitude du réalisateur lors des essais.
C'est quelqu'un qui, en effet, peut embaucher des comédiennes. Et du coup, y a pas de limite. Ça déborde de partout, quoi.
Cette autre comédienne qui souhaite rester anonyme accuse Philippe Luret de l'avoir embrassée de force en marge du casting.
Il m'accompagne jusqu'à ma voiture. Là, il m'embrasse sur la bouche. Donc je l'ai repoussé en lui disant « Ah non, alors certainement pas. » J'étais utilisé cette fin-là de pouvoir me consommer. Il n'y avait rien d'artistique là-dedans. Il prenait le pouvoir. Hein.
Contacté, Philippe Luret fait savoir qu'il s'excuse si son comportement a pu heurter, mais qu'il n'a jamais, je cite, embrassé quiconque de force.
L'enquête et les témoignages sont à lire dès maintenant sur francebleu.fr. Le mois de mars a encore été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Record mensuel battu pour le 10e mois consécutif selon l'Institut Copernicus. Sur l'année écoulée, la température dépasse d'1,58 degré celle de l'ère industrielle. Après la sécheresse de l'été 2022 en Haute-Loire, l'état de catastrophe naturelle est reconnu depuis hier pour la commune de Bessamorel. C'est juste à côté d'Issingeaux. Alors si vous habitez Bessamorel et si vous avez subi des dommages suite à cette sécheresse, vous avez désormais 30 jours pour vous faire connaître auprès de votre compagnie d'assurance.
Il est 8h06 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Un Ligérien pourrait bientôt, Emma, rejoindre le plus haut sommet du monde.
Cet habitant de Saint-Julien-Molin-Molette va tenter pour la troisième fois de rejoindre l'Everest. 8849 mètres d'altitude. Défi fou de François Trouillet, 68 ans, et qui a suivi un entraînement digne des plus grands alpinistes pour l'ascension. Il s'est même fait tatouer le mont Everest sur le biceps. C'est dire à quel point il vit pour ce projet. Le Ligérien est parti samedi direction le Tibet. Il a déjà une bonne idée de ce qu'il attend, Julien Frénois.
Déjà, il faudra être patient. Monter à plus de 8000 mètres d'altitude, c'est un effort surdimensionné, raconte François Trouillet.
On a tendance à aller trop vite. Au Népal, c'est bistaré, qui veut dire doucement aussi, parce qu'on est quand même engoncé dans des combinaisons, des grosses bottes, le sac à dos, la bouteille d'oxygène qui pèse 4 kilos, tout ce qu'il nous faut pour là-haut. Donc on est quand même chargé, et c'est vraiment un pas par minute, quoi. Donc oui, on va super doucement, quoi.
C'est environ 100 mètres de dénivelé par heure. François a entraîné son cardio à cet effort particulier. Il s'est entouré d'un coach et tous les matins, il se prépare aussi au froid en se plongeant dans un bain à 2 degrés. Le froid et l'altitude, pas l'idéal pour s'alimenter. Il faut faire fondre la glace et manger des sachets lyophilisés.
Déjà, pour manger, il faut enlever le masque à oxygène. Mais on est asphyxié, quoi. Je mets une cuillère dans la bouche. Il n'y a plus d'air, quoi. Donc on lâche l'affaire de manger, quoi. On mangera demain.
Durant toute l'ascension, François sera accompagné de plusieurs Sherpas, ces locaux qui sont de véritables anges gardiens pour les Occidentaux durant le périple. Une fois arrivé en haut, il faudra en prendre plein les yeux car l'horloge tourne.
On reste là-haut quoi, 10 minutes maximum, c'est invivable, c'est tout petit, il y a du monde, donc il faut évacuer la plateforme.
L'année dernière, près de 500 permis avaient été délivrés pour aller sur le toit du monde, un record.
Et l'ascension finale, elle se fera entre le 15 et le 20 mai, quand la météo le permettra. En attendant, vous pouvez suivre les aventures de François Trouillet sur sa page Facebook. On vous a mis le lien de sa page ainsi que des photos de sa préparation sur francebleu.fr.